Les voyages dans l'espace, la recherche de vie extraterrestre et la compétition spatiale internationale, c'est donc le programme de notre dossier cet après-midi dans la Tête au Carré, à l'occasion de la sortie avec Courrier International d'un numéro hors série à nous l'espace. Et avec mes invités, nous allons évoquer les grands programmes scientifiques spatiaux, la course aux étoiles et puis bien sûr la question de la vie ailleurs, avec vos messages dès maintenant, vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Les effets du changement climatique déjà perceptibles pour la santé humaine, et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, un rapport de la revue The Lancet paru hier pointe du doigt les conséquences sanitaires souvent oubliées du réchauffement climatique. On fait le tour des risques et des solutions dans un instant avec vos questions sur Twitter, hashtag l'attaque.
C'est Violaine Ballet qui réalise l'émission, un dossier concocté aujourd'hui par Thomas Delozy avec Anne-Cécile Perrin et Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
À nous l'espace, c'est donc le dossier d'émission cet après-midi avec mes invités. La géographe Isabelle Sourbès-Verger, Virginie Lepetit pour Courrier International, l'astrophysicien Francis Rocard et l'exobiologiste Michel Vizeau. Bonjour. À
bonjour.
Tous les quatre,
bonjour,
bienvenue.
Bonjour.
Francis Rocard, on vient d'apprendre que la mission Rosetta était prolongée de 9 mois et que les scientifiques allaient essayer de poser la sonde Rosetta sur la comète Chury, comme avec le robot filet. C'est une annonce spectaculaire quand même, non?
C'est une excellente nouvelle. Ça sera effectivement spectaculaire. Le but, c'est surtout de se rapprocher très près du noyau. Après l'atterrissage, on risque de tout casser.
Ah oui, vraiment?
Ah oui.
Ah, vous êtes pessimiste alors?
Ah mais le but n'est pas de survivre à l'atterrissage.
Ah bon?
La sonde n'a pas été étudiée pour ça.
Ah oui, c'est juste de s'amuser à se poser dessus?
C'est pas s'amuser, mais c'est encore, je répète, l'intérêt c'est d'être très très près du noyau. Mm-hmm. Et donc de descendre, de descendre, de descendre, de prendre des images, d'analyser les gaz, les poussières. Et puis à la fin on se pose. Mais le risque c'est qu'on puisse jamais communiquer avec la Terre.
Michel Vizeau, toujours pas de traces de vie dans l'espace pour l'instant.
Hein, ils n'ont pas encore
y
téléphoné.
Il n'y a pas de scoop pour la Tête au Carré.
Ils n'ont pas encore téléphoné.
Ouais, vous attendez des nouvelles pour quand, a priori?
Bah déjà, on va aller voir ce qui se passe sur Mars en 2016, 2018 et 2020. Donc, du travail devant nous.
Donc, on a des informations intéressantes qui risquent d'arriver par la suite.
S'il y a eu quelque chose, on a plus de chances de le trouver maintenant qu'on en avait avant.
Oui. Isabelle Sourbès-Verger, la course aux étoiles, ça reste un enjeu majeur pour les nations du monde?
Alors, je ne sais pas si on parle encore de course aux étoiles. J'ai l'impression qu'on parle plus d'exploration. C'est plus soft.
Oui.
Et en gros, l'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont aussi les nouvelles puissances spatiales et quel rôle elles envisagent d'avoir dans l'espace. Pas forcément sur un modèle de compétition systématiquement.
Et certaines sont plutôt inattendues, l'Arabie Saoudite par exemple, qui participe
aussi à
cette exploration.
Je ne pense pas qu'on puisse encore considérer l'Arabie Saoudite comme une puissance spatiale. Vous savez, on a
pas une puissance, mais en tout cas un intérêt certain pour l'espace.
Oui, mais beaucoup d'autres pays ont un intérêt certain et on en parle moins. L'idée, c'est finalement de voir comment l'espace peut encore avoir un rôle pour donner à un État une certaine lisibilité et une médiation et une notoriété, même si au final, si on disait que les Émirats Arabes Unis travaillent par exemple avec l'expertise de l'Agence Spatiale Indienne, ça ferait tout de suite moins chic.
Ouais.
Donc, à voir.
Allez, on va se retrouver dans un instant avec vous également, Virginie Lepetit, hein, puisque votre journal Courrier International est notre partenaire aujourd'hui, et avec le CNES également.
Oui, on a comme partenaire le CNES sur ce hors-série, donc dédié à l'exploration spatiale et à la recherche d'autres vies dans l'univers.
Ouais. On en parlera avec également les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. À la une de la science, donc aujourd'hui, les conséquences sanitaires du réchauffement climatique. Un rapport publié hier par The Lancet souligne que les effets du réchauffement pour la santé humaine se font déjà sentir et pourraient même s'avérer catastrophiques à l'avenir. Pour en parler, nous sommes au téléphone avec Jean-François Guégan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD et conseiller scientifique pour le programme Future Earth des Nations Unies. Et puis nous sommes avec Jean-François Toussaint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du GAP, le groupe Adaptation et Prospective au Haut Conseil de Santé Publique. Jean-François Toussaint, ce rapport donc publié dans The Lancet souligne l'urgence de lutter contre la plus grande menace pour la santé publique mondiale. Les mots sont à prendre à la lettre, ils sont exagérés ou pas selon vous?
Les mots, me semble-t-il, ne sont pas trop forts. Il y a réellement un risque qui peut être beaucoup plus important que celui que nous voyons venir actuellement. On a plusieurs aspects qui rentrent sur les grands facteurs de risque actuellement, mais très clairement, le dérèglement des conditions environnementales, dont le réchauffement climatique est l'un des symptômes, est actuellement une grande question pour la...
Oui. L'aspect sanitaire, c'est un domaine dont on parle un petit peu moins dans le cadre du réchauffement climatique, hein, pourtant.
Oui, absolument. Et il a été très très peu abordé dans les conférences précédentes, que ce soit Copenhague, à Lima ou même sur Paris, sur lequel on voit que de plus en plus ce point est très insistant et la tribune du Lancet va contribuer à mettre ce facteur. La France a elle aussi établi un certain nombre de rapports, un grand nombre de travaux ont été lancés et ça va être l'occasion de trouver, de comprendre ce que sont les mesures d'adaptation et d'atténuation qu'il nous faut prendre maintenant pour pouvoir éviter à l'avenir, d'ici une à deux générations, des conséquences qui risquent d'être lourdes, effectivement.
Et quelles sont les menaces concrètes qui pèsent sur la santé des humains aujourd'hui ?
Alors actuellement, celles que l'on voit, ce sont celles qui se sont manifestées, par exemple, dans les grandes vagues de chaleur, celles de 2003 en France, mais de 2010 en Russie, 2012 aux États-Unis, avec des effets qui sont globaux sur l'ensemble du vivant, mais aussi sur les populations les plus fragiles, les plus précaires ou les plus âgées. Et donc, en mêlant tous ces facteurs, on voit bien que le cocktail commence à ne plus être tout à fait favorable et il faut pouvoir analyser tous ces éléments les uns après les autres pour réduire le nombre de décès qu'on a pu voir, 15 000 décès supplémentaires en France en 2003, 35 000 en Europe. Sur l'ensemble de ces points, il faut intégrer les impacts qui vont jouer aussi de façon indirecte, par exemple, sur la production alimentaire.
Alors, Jean-François Guégan, justement, votre analyse de votre côté sur les principales menaces pour la santé humaine donc liées au réchauffement et les risques qui existent déjà ?
Alors, je pense qu'il faut absolument distinguer entre des événements courts dont vient de parler Jean-François Toussaint à l'instant, c'est-à-dire des événements extrêmes. Il a parlé des coups de chaleur et de leurs conséquences, notamment en France, et des événements longs. Qui peuvent se réaliser sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour lesquels on a beaucoup moins d'évidence scientifique. Mais n'empêche, il est important de les comprendre. Alors, ce que l'on remarque, c'est que on a de plus en plus de prolifération de bactéries ou de virus dans les ce qu'on appelle les systèmes côtiers maritimes, avec l'augmentation de la surface de l'eau, par exemple en Manche. Ces virus ou bactéries vont pouvoir affecter des coquillages dont vont s'alimenter les populations humaines et se retrouver dans la chaîne alimentaire et être responsables de cas de diarrhée qui sont en plus grand nombre aujourd'hui. Mmh. Donc l'augmentation de la température va dynamiser la reproduction du virus ou de la bactérie et donc provoquer ces conséquences sanitaires. Mais vous allez aussi avoir avec des changements climatiques, une augmentation de la température, vous pouvez aussi assister à une arrivée de vecteurs, de réservoirs, de pathologies qui seraient normalement d'origine plus au sud et notamment de régions tropicales. Ce que vient de dire Jean-François Toussaint à l'instant, c'est que avec le changement climatique, vous avez aussi d'autres phénomènes qui interviennent, ce peut être des modifications d'écosystèmes, le phénomène de globalisation avec des transports internationaux qui peuvent aussi être responsables et transporter des bactéries. Je prends l'exemple de bateaux containers qui, dans leur ballast, peuvent contenir des bactéries d'origine tropicale et les déverser, lorsque nettoyant leur ballast, les déverser dans un port ici. Si les conditions sont tout à fait propices à leur prolifération, eh bien ces bactéries ou ces virus proliféreront dans l'eau, par exemple.
On sait réellement prédire la propagation des maladies et de leurs vecteurs correctement aujourd'hui ?
Alors, il y a énormément de travaux qui sont faits, qui sont des scénarios, un peu à l'image de ce que produisent les physiciens du climat pour le GIEC. On a deux types de recherches. Ce que l'on essaie de comprendre, c'est la distribution spatiale d'un certain nombre d'agents pathogènes, ce peut être le paludisme, ce peut être la dengue par exemple, cartographier ces cas et de voir si l'augmentation de leur aire de distribution peut correspondre à des modifications climatiques. Tout le problème là réside dans le fait qu'il peut y avoir d'autres effets confondants que le changement climatique, ce peut être le transport par l'homme ou ses activités, ce peut être à travers l'élevage, pour un certain nombre de maladies transportées par des réservoirs dont l'homme se nourrit, des ruminants je pense par exemple. Et la deuxième chose est que cette distribution spatiale n'a pas de point zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'état zéro dans lequel l'homme n'était pas intervenu encore sur le dérèglement climatique pour avoir et pour nous se permettre une comparaison. Ça, c'est la première approche qui est un héritage de la médecine et de la géographie. Puis un deuxième moyen d'étudier, c'est de l'étudier dans le long terme, sur 40 ans, 50 ans, à l'aide de séries, on parle de séries chronologiques de cas d'une maladie, et de croiser ces séries de cas avec des paramètres biométéorologiques ou des indicateurs du changement climatique, tel le fameux phénomène ENSO, qui est un élément du changement climatique. Et au travers d'analyses statistiques plus ou moins complexes, c'est de vérifier s'il y a bien un signal dans les épidémies, dans la fréquence des épidémies, c'est d'ailleurs ce qu'on observe pour un certain nombre de pathologies infectieuses, une augmentation des fréquences d'épidémies à cause du dérèglement climatique et ces fameux phénomènes El Niño, El Niña.
Jean-François Toussaint, pour terminer, les maladies chroniques également, il faut s'attendre à une augmentation sensible liée toujours à ce réchauffement?
Oui, très clairement, on voit actuellement cette augmentation d'un risque principal qui est notre gain aussi de ces 100 dernières années, celui du vieillissement de la population, mais qui en même temps donne une vulnérabilité particulière autour de ces conditions. Les questions de stabilité économique, les questions de sédentarité, les questions de s'ajoutent, et la question de la dette climatique par rapport à tous ces changements, est-ce que le climat remonte plus vite vers le nord que nous ne pouvons nous y adapter, restera marquée pour nous comme pour les autres espèces, et on l'a vu avec des convergences de phénomènes, que ce soit pour Pimentia en France ou Sandy aux États-Unis, dans lesquels on va avoir par ces événements extrêmes et associés à cela d'autres fonctions qui vont mettre ces nouvelles vulnérabilités en jeu, des risques sur lesquels il nous faut travailler. Jean-François Guégan l'a bien dit, il faut comprendre de façon beaucoup plus importante maintenant les interactions et dans ces systèmes complexes, trouver les moyens de prévenir ces évolutions.
Merci en tout cas à tous les deux pour votre analyse sur donc ces projections peu réjouissantes sur la santé humaine liées au réchauffement climatique à la suite de cette publication dans The Lancet. Jean-François Guégan et Jean-François Toussaint, merci beaucoup à tous les deux. Axel, un dernier mot pour dire que notre concours autour du quiz de la tête carrée est terminé. Ça y est, on a reçu tous nos dessins, toutes nos photos.
Il n'y a plus rien à gagner. Hein. Vous avez été très nombreux depuis vendredi à nous envoyer vos dessins, vos photos. Vous pouvez les voir sur la page Facebook. Restez attentifs parce que nous avons besoin de vos adresses pour vous envoyer les cahiers. Et ceux qui n'ont pas été assez rapides, ben rendez-vous en kiosque pour retrouver ce cahier de vacances avec 300 questions scientifiques, une version junior, une version adulte. Merci à tous pour votre imagination.
Voilà, donc pensez bien à nous donner vos adresses si vous nous avez joints avec vos œuvres. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, selon une enquête, un tiers des lycéens ne se protègent pas systématiquement lors d'un rapport sexuel. Ce résultat viendrait d'une mauvaise connaissance des maladies sexuellement transmissibles. Ils sont en effet 16% à penser qu'on guérit du sida. Paradoxalement, les étudiants ont une meilleure conscience du danger, mais seulement la moitié d'entre eux se protègent. L'absence de prévention mène à des solutions d'urgence. 40% des filles entre 15 et 24 ans ont déjà pris la pilule du lendemain et une lycéenne sur 10 a déjà eu recours à l'IVG. Chez le poisson, l'intelligence ne tiendrait qu'à un seul gène, alors que les chercheurs suédois s'attendaient à mettre les pieds dans un mécanisme cérébral extrêmement complexe. Ils se sont aperçus que l'expression de l'angiopoïétine, une, conditionne seulement l'intelligence et la taille du cerveau sur deux espèces de poissons, le guppy et le poisson zèbre. Suite à cette découverte, le rôle de ce gène sur la neurogénèse humaine est à l'étude. Jusqu'alors, elle était cantonnée chez l'homme à la formation des vaisseaux sanguins. Et puis pour finir, le réalisateur Martin Eck a réalisé un timelapse exceptionnel de l'éruption du volcan chilien Calbuco il y a 2 mois, après 43 ans de sommeil. La montagne est depuis entrée en activité 2 autres fois, provoquant l'évacuation de 4000 personnes. Le travail de Martin Eck vous montre la formation de l'imposant nuage, composé de plusieurs millions de mètres cubes de cendres. Et vous pouvez voir cette vidéo dès maintenant sur la page Facebook de La Tête au Carré. À nous l'espace, c'est donc dans un instant et c'est le dossier de l'émission avec nos invités et vos messages. Thinking about the one you love. Oh, thanks.
bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying.
Et c'est Chris Isaac à l'instant sur France Inter avec Baby Did a Bad Bad Thing.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Des robots dans l'espace, la recherche de vie extraterrestre, la course aux étoiles. Moi j'aime bien ce terme, hein, vous le disiez tout à l'heure. Isabelle Sourbès-Verger, on ne l'emploie plus beaucoup, mais au moins c'est assez parlant pour dire ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Et puis ce hors-série, donc à nous l'espace qui sort aujourd'hui avec Courrier International. Isabelle Sourbès-Verger, vous êtes géographe, chercheur au CNRS et spécialiste des politiques spatiales. Francis Rocard, vous êtes astrophysicien, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Et Michel Vizeau, vous êtes responsable des programmes Exobiologie, toujours au Centre National d'Études Spatiales. Virginie Lepetit, vous êtes chef d'édition à Courrier International et vous avez coordonné donc ce hors-série qui est actuellement en kiosque. Les messages et les questions des auditeurs qui arrivent déjà, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Virginie Lepetit, on peut rappeler que la vocation de Courrier International, c'est de traduire en français hein, la presse étrangère.
Oui, c'est ça.
Dans le domaine de l'espace, justement, la presse est très inspirée par ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
Alors, elle a été extrêmement inspirée par le succès de la mission Rosetta. Ça a été quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. C'est-à-dire que toutes les unes des quotidiens, alors européens évidemment, mais américains, asiatiques, titraient sur Rosetta et Philae. Et ça a été vraiment pour nous... Enfin, d'abord, ça faisait plaisir parce qu'on avait tous suivi ça de très près. Ouais. Et ça a été un déclencheur, et notamment pour l'idée de ce hors-série. Et du coup, on a commencé à regarder plus attentivement ce qui intéressait la presse internationale et à se pencher aussi sur les programmes de nouveaux pays, de nouveaux venus dans l'exploration spatiale ou simplement dans les lanceurs. Hein. Ça dépend des pays. Donc c'est vraiment ça qui a été le déclencheur. Et depuis, vu le programme qui sur 2014-2015 en termes d'exploration, de sondes, de lanceurs, enfin voilà, c'est en permanence, en fait, des articles sur l'espace.
C'est ça. Il y a un agenda qui est déjà bien rempli. Hein,
oui, il est très rempli, l'agenda.
Pour les années qui viennent, avec des choses très prometteuses, évidemment. Francis Rocard, cet engouement là autour de Rosetta, on pouvait s'y attendre, mais cette ampleur-là, quand même, elle a été assez surprenante. Hein.
Alors, on pouvait s'y attendre, mais néanmoins, effectivement, elle a été, je crois, inégalée. On a parfois fait référence à un 21 juillet 69, même si bon, la présence d'hommes à bord accroît énormément la dramaturgie de l'événement, mais et c'est probablement lié aux moyens de communication modernes que sont le tweet, Facebook, Internet, qui a vraiment fait une caisse de résonance. Je crois qu'il y a eu 670 000 tweets sur Philae au moment de l'atterrissage, donc ça a été assez considérable. Et donc on est très content. On s'y attendait un peu, hein, mais pas de cette ampleur.
Ouais, Isabelle Sourbès-Verger, vraiment un engouement là aussi international, hein, vraiment partout.
Oui, alors la notion d'engouement international, c'est un petit peu étrange aussi, parce que ça dépend de la disponibilité des médias. C'est-à-dire qu'il a été d'autant plus fort qu'à ce moment-là, il n'y avait rien d'exceptionnel non plus. Et je voudrais pas, un peu quand même, et je ne voudrais pas. Alors pour ce qui est le moment de l'atterrissage au Philae, non, là je vous l'accorde bien volontiers, c'était prévu, etc. Mais d'une manière générale, moi qui suis un petit peu l'actualité internationale, je suis très frappée de voir comment certains programmes font la une et d'autres pas. Par exemple, le Japon a un très beau programme avec des retours d'échantillons absolument exceptionnels, etc. On n'en parle jamais. Les Indiens étaient à un moment très choqués de voir qu'on parlait beaucoup plus de la sonde chinoise que de la leur autour de la Lune. En revanche, leur mission martienne a eu beaucoup de succès. Donc il y a un jeu très ambigu parfois entre l'actualité spatiale et les médias, à certaines médias faisant caisse de résonance à certains moments, parce que le spatial, ça met du temps. Donc par exemple, vous avez des annonces de programmes qui sont faites à 10 ans ou à 15 ans, qu'on ne voit pas forcément passé, puis tout à coup le programme surgit, alors là c'est la grande surprise pour la presse. Je prendrais ça, oui, cet exemple pour le premier chinois dans l'espace. C'était absolument incroyable, alors que c'était quelque chose de relativement attendu. Et puis, il y a d'autres phénomènes où ça va passer de manière beaucoup plus soft. Et c'est important aussi quand même de noter, parce que c'est pas neutre, que le poids de l'actualité internationale, effectivement, joue par rapport à la manière dont les pays, alors pas tellement au niveau des communautés spatiales, mais au niveau de la communication politique globale d'un État, vont faire là aussi caisse de résonance. On parle beaucoup des Émirats arabes unis, on parle des Émirats arabes unis sur le projet martien, mais on a très peu parlé de l'Iran, si ce n'est pour le traité en Rogue Nations. Donc il y a un traitement de l'information qui en soi est quand même très, très intéressant à regarder.
Virginie Le Petit,
oui,
pour rebondir.
Il y a la disponibilité des médias, mais il y avait quand même une actualité chargée en décembre malgré tout. Il y a eu Peshawar, enfin il y a eu des choses quand même très, très dramatique. Et il y a aussi la façon dont l'ESA a communiqué autour de Rosetta et Philae. Et la dramaturgie, c'est l'ESA hein, qui l'a insufflé en donnant une voix à Philae, en faisant... c'est vraiment... C'est venu de là, moi, je pense, oui, aussi, beaucoup.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une cristallisation de l'attention quand même le 12 novembre 2014. Oui, oui.
Hein, mais c'était un exploit.
Franchement, là, tout le monde était là, et les unes de journaux, mais c'était incroyable. Hein.
Mais tout le monde, et puis il y avait du monde partout, dans tous les sites qui étaient organisés, il y avait du public qui était là, même dans les sites les plus reculés, etc. Oui. Et Philae a été adopté comme une sorte de nounou, un petit nounours, quoi. C'était
ça,
vraiment. Et les gens en parlaient, ils rencontrent dans la rue, et Philae, si vous avez des nouvelles de Philae, c'était vraiment leur petit copain.
Ouais. Alors, l'annonce de son réveil, le 13 juin dernier, Francis Rocard, ça a été une bonne nouvelle. Bon, qui a eu moins d'écho, évidemment, que l'atterrissage sur la comète, mais quand même, on était heureux d'avoir des nouvelles de notre robot qu'on avait un peu perdu de vue, là.
Alors, oui. On a eu un réveil en plein week-end, c'était pas très facile à gérer, mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Aujourd'hui, on a quand même des contacts un peu erratiques, hein, faut bien le dire. Donc on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie d'optimiser les communications entre Philae et Rosetta.
Oui.
Et on espère qu'on va pouvoir passer en phase réellement opérationnelle. Pour l'instant, on n'y est pas du tout.
Oui.
On a une communication trop courte. Il nous faudrait 15-20 minutes pour pouvoir envoyer une séquence de télécommande à Philae pour lui dire, ben voilà, le jour prochain, tu vas faire ça, ça et ça. Et on n'est pas capable de le faire actuellement. Donc on essaye de bien optimiser les communications aujourd'hui.
Ouais. Rosetta, ça reste une des missions les plus complexes et les plus ambitieuses, justement, jamais entreprises. C'est ce que souligne un courrier international.
Alors, c'est une mission très ambitieuse et très complexe. Oui, mais de plus en plus, on prépare des missions ambitieuses et complexes, parce que toutes les missions simples, on les a faites. Et que maintenant, on a besoin de se poser, de descendre, que ce soit sur Mars, que ce soit sur la Lune, ou que ce soit sur une comète. Donc, on peut plus se contenter d'un survol comme Giotto en 86.
Ouais.
Mais se poser sur Mars, ça reste extrêmement difficile. Et aujourd'hui, il n'y a que les Américains qui l'ont fait avec succès, même si les Britanniques peuvent prétendre qu'ils l'ont fait. La sonde n'a pas fonctionné au sol. Ça, c'est le résultat qu'on a appris dans ces dernières semaines. Mais voilà, donc c'est compliqué. Et ce qui est sûr, c'est que ces missions-là sont très spectaculaires et attirent beaucoup d'intérêt du public.
La complexité, l'originalité des projets aussi. On va vous faire écouter un petit extrait d'une interview diffusée sur le site Terre.tv. C'est justement les Japonais qui ont imaginé un ascenseur spatial. Ça fait partie des grands fantasmes autour du ciel. Et voilà ce qu'ils prévoient.
Il faut s'imaginer un train qui part de la Terre et qui monte à la verticale. Le plus important, c'est le câble, c'est-à-dire le rail pour le train. Imaginez un câble de 100 000 km attaché à la Terre, s'étirant vers l'espace. Un véhicule nommé Climber monterait et descendrait le long de ce câble. Bien sûr, comme un vrai chemin de fer, on construirait également quelques stations sur ce rail.
Et c'est une entreprise japonaise qui affirme pouvoir construire cet ascenseur d'ici 2050. Francis Rocard, alors c'est un peu le serpent de mer quand même, cette histoire.
Oui, non, mais attention, il faut être sérieux. Aujourd'hui, effectivement, c'est le câble qui pose problème. 100 000 km, c'est pas rien.
100 000 km de câble, oui.
Et la résistance des matériaux impose ce qu'on appelle des nanotubes de carbone. Nano, ça veut dire petit. Donc aujourd'hui, on sait faire que des petits nanotubes de carbone. Il faudrait faire un méga nanotube de carbone de 100 000 km. On est loin de savoir le faire. Mais l'intérêt, c'est d'arriver là-haut à 36 000 km et d'être directement en orbite géostationnaire.
Ouais. Virginie Le Petit, on voit tous les fantasmes autour du spatial aussi dans le dossier, hein, parce qu'évidemment il y a la vérité scientifique, enfin en tout cas il y a l'exploration scientifique, et puis tout ce qu'on imagine autour de Mars par exemple.
Oui, il y a pas mal de choses autour de Mars, il y a beaucoup de fantasmes, et il y a aussi énormément de symboles. Enfin, ce sont des enjeux politiques, ce sont des enjeux de propagande aussi, mais je pense notamment aux Indiens. Même si la sonde indienne donc, qui a été mise en orbite autour de Mars en septembre 2014 n'était pas le fruit du gouvernement Modi, donc le gouvernement nationaliste actuellement en place, ça a été abondamment repris dans cette propagande nationaliste qui veut faire de l'Inde, ou dire que l'Inde en tout cas est une vraie puissance technologique, spatiale, scientifique, ce qui est de plus en plus vrai. Mais oui, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de fantasmes, mais aussi énormément de conspirationnistes qui sont alors soit très drôles, soit très inquiétants, mais en tout cas, ça inspire énormément de gens. Ouais.
C'était quoi cette annonce d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Isabelle Sorbès-Verger, des Russes qui souhaitaient vérifier que les Américains étaient bien allés sur la Lune? C'était une blague ou pas, ça?
Oui, enfin, j'ai l'impression que ça commence à relever de ça, parce que en pleine guerre froide, si les Russes avaient eu une quelconque preuve que les Américains n'avaient pas été sur la Lune, c'était vraiment le moment de le dire.
Mais donc, oui, bien sûr. Et puis, il y a quand même des échantillons lunaires
Mais je pense. Et puis, il y a eu des photos prises par énormément de sondes, et y compris des choses prise par les Russes eux-mêmes. Enfin là, je pense que c'est une fois de plus dans la diabolisation des Russes qu'il faudrait travailler. Je crois qu'en ce moment, ils n'ont pas beaucoup de chance sur les ondes occidentales.
C'est presque infantile, ce type de déclaration, non, Francis?
C'est pas sérieux. C'est de la théorie du complot, parce que les preuves, elles sont là. Vous l'avez dit, les échantillons lunaires, les scientifiques qui les analysent ne peuvent pas être tenus au secret. Si les échantillons étaient faux, ça se saurait. Donc ils viennent bien de la Lune, je peux vous le garantir. Et d'autre part, on a des belles photos des atterrissages d'Apollo 11, 14...
Voilà. Mais en 2015, on est encore obligé de repréciser les choses tout le temps. Et de la part d'un pays comme la Russie, ça peut paraître étonnant.
Il
ne
faut pas parler d'un pays comme la Russie, ce n'est pas une déclaration officielle du tout. Et c'est quelqu'un sur lequel on s'amuse à rebondir, parce qu'en ce moment, on fait du Russie bashing.
Allez, on se retrouve dans un instant. On poursuit notre discussion avec les auditeurs, les messages sur franceinter.fr.
Je m'aperçois que rien ne va bien. Je m'aperçois que rien ne vaut rien. Le monde n'y suit pas chez moi. Je crois que tu ne comprends pas. Que tu ne comprends pas. Quelques larmes coulent de tes yeux. Et je sais que malheureux n'est pas un mot pour nous deux. Que nous méritons bien mieux. De la nuit ou de toi reste désenchanté. Qui de la nuit ou de moi est le plus désolé? Je crie en vain, je ne sais plus rien. Je doute de tout, tu le sais bien. Je t'aimais si fort autrefois, tu étais si belle, je crois. Si belle, je crois. Au plus profond de tes yeux, je m'éblouis encore un peu. Je m'égare, je m'en veux. Oui, nous méritons bien mieux. Qui de la nuit ou de toi reste désenchanté? Qui de la nuit ou de moi est le plus désolé? Quelques larmes coulent de tes yeux, et je sais que malheureux n'est pas un mot pour nous deux, que nous méritions bien mieux. Nous méritions bien mieux. Qui de la nuit ou de toi reste désenchanté?
Désolé, Daniel Darc dans notre tête au carré avec Courrier International, donc numéro hors série qui sort aujourd'hui même dans les kiosques. À nous l'espace, là avec la presse étrangère qui explore donc les nouvelles frontières de l'univers. Et vous pourrez le découvrir pendant tout l'été. Vos messages, Viron nous dit ceci, c'est une question peut-être pour vous Michel Vizot. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir de trouver des micro-organismes sur Mars ?
Alors des micro-organismes actifs, je dirais non, raisonnablement non. Des traces éventuelles de micro-organismes qui auraient pu se développer quand Mars était accueillante et habitable. C'est l'objectif de l'exobiologie. Si on en trouve, ça veut dire qu'il y a de la vie. Si on en trouve chez le voisin, il y en a partout dans l'univers. Si on n'en trouve pas, bah, c'est qu'il faudra chercher mieux, et ou bien qu'il n'y en a jamais eu, ce qui est aussi tout à fait possible.
Francis Rocard, c'est l'argile martienne aussi hein, qui intéresse beaucoup.
Oui. Oui, les argiles martiennes, qui est une découverte française. Hein. Faite par
Jean-Pierre Bibring.
Jean-Pierre Bibring avec un instrument financé par le CNES hein, et sur Mars Express. Donc c'est probablement la découverte de la décennie sur Mars puisque c'est là où tous les engins qui cherchent donc la vie ou le carbone vont se poser. On se posera sur des spots d'argile mais ça représente 1% de la surface intégrée de Mars. Donc faut pas se poser n'importe où. Et les argiles sont des phyllosilicates, c'est-à-dire c'est des minéraux sédimentaires en feuillet qui donnent dans ces feuilles, entre chaque feuille, peuvent piéger des molécules organiques. Et c'est tout l'intérêt d'aller analyser ce qu'il y a dans ces feuillets. C'est ce que Curiosity doit faire. Alors bon, c'est difficile de vous dire quand parce qu'il ne cesse de prendre du retard. Mais aujourd'hui, c'est premier semestre 2016.
On va dire. Curiosity qui a fêté ses 1000 jours à peu près sur la planète Mars, hein, c'est ça ? Mais avec du retard, donc pour la mission en tous les cas.
Voilà, il n'a pas fêté les 1000 jours avec du retard, mais il a fêté les 1000 jours et il est
pour
en retard.
Sur son programme.
Sur son programme. Parce que c'est plus long que prévu, parce qu'ils veulent faire beaucoup de science et ils sont très excités à en faire. Mais soit vous faites de la science et vous ne bougez pas, soit vous bougez. Et donc maintenant, il faudrait qu'ils bougent un peu plus pour atteindre l'objectif. Ultime de la mission.
Michel Vizot. Il y a tellement de choses intéressantes à faire entre-temps.
Ouais, si on trouve justement de la matière organique, ce sera de la vieille matière organique très ancienne sur Mars.
Bon, de toute façon, elle sera vieille puisque il y a toujours des apports de matière organique comme sur Terre. Hein, je vous signale qu'on reçoit des poussières, à peu près entre 20 000 et 40 000 tonnes de poussière extraterrestre, de poussière, hein, je le dis bien, de poussière par an. Alors, 1040 tonnes les uns derrière les autres, ça fait beaucoup quand même. Et sur Mars, ils en reçoivent proportionnellement. Donc théoriquement, il y a de la matière organique, c'est à peu près entre 5 et 10% de matière organique et ça apporte aussi entre 5 et 10% d'eau d'une façon générale, globalement. Ouais. Donc on en trouvera, elle sera forcément vieille, et si on en trouve, et ben dans les spots d'argile, on a effectivement peut-être des chances d'isoler, de découvrir quelques résidus de matière organique très anciens, au moins de plusieurs milliards d'années.
Francis Rocard, pour parler
juste sur ce problème-là, ce que n'a pas dit Michel, que je voudrais préciser, c'est qu'il y a les radiations sur Mars. Et donc cette matière organique, même celle qui tombe dans la poussière, elle se détruit en permanence. Et même dans nos argiles... qu'on va étudier début 2016. La question est de savoir si cette matière organique va être préservée ou transformée en CO2 qui est universelle sur Mars. Et aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'on n'en a pas beaucoup de matière organique. On en a très très peu. Sam en a détecté un peu, mais on est dans des picomoles, hein, 10-12 moles, c'est pas beaucoup, et on espère en trouver plus. Mais encore une fois, c'est ce problème de radiation qui risque de rendre la recherche difficile.
Qu'est-ce que c'est que le mol, excusez-moi, entre parenthèses, comme ça?
Le mol, c'est 10 puissance 23 atomes. C'est donc d'Avogadro.
C'est 12 grammes, c'est 12 grammes de carbone.
Voilà. Donc on a les picomoles aussi.
La mol, c'est le picomol, c'est. Alors, juste pour rebondir, parce que vous voulez...
Michel Vizot, rebondissez, je vous en prie.
Rebondissez, c'est la raison pour laquelle il y a une mission donc en 2018, une mission européenne, qui s'appelle ExoMars, et qui a pour objectif de forer, donc pour essayer de trouver de la matière organique la plus ancienne possible, protégée, donc on espère forer jusqu'à 2 mètres, c'est la limite, mais déjà on espère qu'à 50 cm, 1 mètre, on devrait être suffisamment protégé des radiations pour trouver de la matière organique, s'il y en a eu.
La Lune, ça reste un objectif intéressant selon vous, Francis Rocard, ou pas ? Retourner sur la Lune, est-ce qu'on a encore des choses vraiment importantes à y faire ?
Alors la Lune, pendant longtemps, on a mis la charrue avant les bœufs, puisqu'on a fait du retour d'échantillons avant même la cartographie. Aujourd'hui, oui, il y a des choses à faire, on ne connaît pas la face cachée. Donc des échantillons de la face cachée, on ne connaît pas trop son activité sismique, notamment sur la face cachée, donc il y a des projets dans ce sens. Et puis il y a le projet d'en faire une étape pour aller sur Mars, en tant que mission habitée, c'est-à-dire une base lunaire, ça c'est un projet américain, la décision n'est pas prise, mais la question c'est comme on n'ira pas sur Mars directement, ça je crois que la messe est dite là-dessus, On ne mettra pas directement aujourd'hui des hommes sur Mars, on ne sait pas le faire.
Il faudra faire un petit saut de puce avant.
Il faudra passer par un astéroïde, ça c'est dans le tuyau, mais il faudra probablement passer par une base lunaire pour développer toutes les technologies qui vont avec.
Isabelle Sourbès-Verger, les Américains souhaitent poser des hommes sur un astéroïde ?
Oui, alors ça, c'est un vaste sujet. Je voulais rebondir sur la Lune. En fait, l'avantage de la Lune, c'est que c'est quand même le seul satellite naturel de la Terre et c'est le seul sur lequel on peut faire des choses, je dirais, quand on est aussi en train d'expérimenter, d'où l'intérêt pour la Lune des Chinois et des Indiens. Mais on a quand même un débat assez intéressant qui a été bien remis en place lorsque le président Obama était arrivé et qu'il avait interrompu le dernier projet de Bush qui était plutôt vers le retour de la Lune parce que justement, c'était la seule chose qu'il pouvait faire dans les médias. Et Obama disait, mais ça, c'est un vieux projet. Donc maintenant, les projets de l'avenir, c'est peut-être pas de revenir sur la Lune où les circonstances et les conditions sont assez particulières. Ça n'a pas beaucoup de choses à voir avec ce qui se ferait sur Mars et qui coûte quand même de l'argent. Et donc peut-être on va se tourner vers le futur, la science, les astéroïdes, Mars, etc. Et c'est amusant parce que le fameux programme spatial chinois, je dis fameux parce qu'il a toujours la une de l'actualité et que bon, je trouve qu'il l'a parfois un peu beaucoup par rapport à d'autres. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Toujours est-il que le programme chinois dont on disait beaucoup parce qu'ils ne l'ont jamais dit eux-mêmes, même qu'il voulait mettre un homme sur la Lune, finalement a un peu perdu de l'intérêt aux yeux même de la population et du gouvernement chinois à partir du moment où ça a été présenté justement par les États-Unis comme un programme du passé. L'idée étant qu'il fallait faire un programme de l'avenir. Mais en même temps, et je reprendrai ce que vous disiez tout à l'heure, faire de la science aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué quand vous voulez avoir quelque chose de nouveau. Donc, l'état de la science chinoise ou l'état de la science indienne, quand ils vont aller vers Mars, alors les Indiens ont déjà été faire un petit tour ou autre, ça ne peut pas être de la même qualité en termes de grosse science.
Poser des hommes sur un astéroïde,
c'est pas leur problème. La science, c'est un faire-valoir.
C'est pas leur problème.
Pour les Indiens, pour les Chinois.
Oui, alors c'est un faire-valoir, mais en même temps, quand vous lisez quand même le discours intérieur d'un certain nombre de gens, les Chinois par exemple disent que c'est plus important pour eux d'avoir un prix Nobel que d'avoir un homme sur la Lune. Parce que globalement, en dehors de la communauté spatiale, vous avez un intérêt pour apparaître comme une grande nation scientifique et technologique. Et donc pour l'instant, dans l'état où est l'Inde, ils justifient cette espèce d'une vision de l'Inde, pays en voie de développement, qui est maintenant un pays qui parle au reste du monde dans le domaine de la science en allant sur Mars, c'est vrai, mais en même temps, quelque part, les gens de la communauté spatiale eux-mêmes savent bien qu'ils ne vont pas mettre trop d'argent, argent qu'ils n'ont d'ailleurs pas, pour des programmes où ils ne sont pas véritablement à la hauteur. Donc, il va falloir trouver des fenêtres dans un partenariat international. Et moi, je dirais que c'est plutôt vers ça qu'on se tourne quand même aujourd'hui dans le domaine de la science, c'est-à-dire l'idée que tout le monde va essayer de coopérer pour économiser de l'argent et puis pour grappiller des éléments de connaissance.
Le problème est très très lourd quand on parle de l'homme sur Mars. Il y a eu un rapport du NRC l'été dernier qui très technique mais très intéressant et qui explique bien que n'essayons pas d'aller sur Mars directement, ce n'est pas possible, c'est trop lourd, on n'y arrivera pas. Il faudrait doubler ou tripler le budget de la NASA, le budget fédéral américain le Congrès ne le permettra pas. Donc il faut être beaucoup plus smooth, il va falloir passer par les astéroïdes, ce qui est décidé. C'est décidé.
Ça aura de la gueule d'ailleurs de mettre des hommes sur des astéroïdes quand même.
Bah ouais. C'est assez fun.
On l'a jamais fait.
Maintenant, c'est pas scientifique, hein, encore une fois. Il s'agit de tester l'homme loin de la Terre, etc., pour des voyages de 6 mois. Et je crois que la base lunaire va être un passage obligé. Parce qu'il faut développer, encore une fois, les techniques d'atterrissage d'un engin de 40 tonnes.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Isabelle, sur la coopération. Et effectivement, dans ce qu'on a lu et dans ce qu'on a repris, c'est quasiment toujours la conclusion que l'on parle des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Europe. Les grands programmes, les futurs grands programmes ne se feront pas sans une coopération internationale et surtout au niveau des financements. Aucun pays maintenant ne peut financer seul un grand programme spatial. C'est plus possible. Les États n'ont plus envie de consacrer autant d'argent au spatial qu'avant. Donc c'est forcément des coopérations internationales.
En tout cas, envoyer un homme et des hommes dans l'espace, ça reste un exercice compliqué et pour le tourisme spatial en particulier. On l'a vu le 31 octobre dernier avec l'accident de SpaceShip.
Nous avons trouvé plusieurs gros morceaux de l'avion en plusieurs endroits. La queue de l'appareil s'était écrasée à presque 2 km du fuselage et un autre morceau encore un peu plus loin.
Le prototype testait un nouveau mélange de carburant. Il s'est séparé de son avion de lancement sans incident, semble-t-il. Pour les ingénieurs situés au sol, tout semblait normal. L'homme d'affaires britannique Richard Branson, qui envisageait de monter à bord de ses avions avec son fils, subit l'un de ses plus grands revers.
Ce programme d'essai est le plus important jamais mis en place dans l'histoire de l'aviation commerciale, précisément pour s'assurer que ce genre d'accident ne se produise pas avec des passagers à bord. On ne peut souligner assez la bravoure des pilotes d'essai. Et personne ne sous-estime les risques liés à l'exploration spatiale.
Voilà, Francis Rocard, même pour les promenades de santé, hein, que serait le tourisme spatial, parce que là on est bien loin évidemment d'une mission martienne, on rencontre beaucoup de difficultés encore aujourd'hui. Hein.
Le spatial, c'est difficile. Il y a des règles de physique, il y a des vitesses à atteindre, il y a des vitesses à perdre pour la rentrée. Mm-hmm. Donc il y a des échauffements énormes. Et ça, c'est incontournable. Donc c'est pour ça que quand j'entends, je ne sais plus quel entrepreneur américain qui nous dit qu'en 2025, il envoie un homme sur Mars, c'est du bluff total. Et c'est faux, c'est pas vrai. C'est plutôt 2050.
Oui. Il l'envoie, mais il ne le ramène pas.
Hein. En plus.
Il l'envoie, mais il ne le ramène pas. Donc en plus, c'est une insulte à l'intelligence.
C'est ticket simple. Hein.
Ça, c'est du bluff total. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un centime.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la fin de ce dossier. C'est Club Cheval à l'instant sur France Inter.
La tempête.
Pas le moindre signal radio sur onde courte jusqu'à présent.
Carré.
Rien encore, commandant. Liaison radio, on entend une voix ici.
Mathieu Vidard.
Humaine, on dirait. Poussez le son.
Sur France Inter.
C'est la presse étrangère qui explore donc les nouvelles frontières de l'univers. À nous, l'espace hors série de Courrier International à partir d'aujourd'hui dans les kiosques et pendant tout l'été. Isabelle Sorbès-Verger, Francis Rocard, Michel Vizeau et Virginie Le Petit sont mes invités. Et vos messages sur franceinter.fr. Benoît demande sur Twitter quel est le budget spatial de la Chine.
Alors, officiellement, on ne le connaît pas. Les calculs qui sont faits... Alors, c'est d'ailleurs très étrange qu'on ne le connaisse pas parce que la Chine donne un budget de défense. Donc, ce n'est pas plus secret de donner un budget du spatial. En fait, ça signifie qu'elle ne fonctionne pas avec un budget, mais avec des attributions de ressources et qu'ils ne font pas le calcul. On va le chiffrer aujourd'hui, selon les experts, je dirais entre 4 et 6 milliards de dollars. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le budget américain, qui, lui, est de l'ordre de plus de 40 milliards de dollars. Ouais. Donc, plus de la moitié pour un budget spatial militaire. Donc en gros, dans l'espace, vous avez les États-Unis et puis le reste du monde. Et dans le reste du monde, par ordre de budget, vous avez l'Europe, la Chine, la Russie, qui sont sans doute assez proches, et puis l'Inde.
Virginie Le Petit.
Alors effectivement, leur budget, c'est un dixième de celui des États-Unis. Leur grande force aux Chinois, c'est que 250 000 personnes travaillent sur le programme spatial. Ils ont cette masse énorme.
Oui, alors ça, c'est une chance ou pas? C'est quelque chose qui va être très intéressant à voir, parce que justement, est-ce que finalement, de faire un spatial avec beaucoup de personnel, c'est le moyen de faire un spatial pas cher à l'avenir? C'est pas du tout, ouais. Du tout évident. Mais ça, de toute façon, la grande différence pour la Chine et l'Inde, et dans une moindre mesure la Russie, c'est qu'ils ont un énorme marché de commandes intérieures. Et ça, je crois que l'Europe, elle rêverait d'avoir des besoins en satellites aussi importants.
Francis Recard, à l'époque,
il faut comparer les salaires, parce que évidemment, le nombre de personnes, ça dépend combien gagne un ingénieur chinois ou indien. Voilà.
À l'époque de la mission Apollo, il y avait combien de personnes qui travaillaient?
Je crois que c'est de l'ordre de 200 000 personnes.
200 000 personnes mobilisées rien que pour mettre l'homme sur la Lune. Hein.
Absolument, absolument. Ouais. Si vous regardez le budget de la NASA en 60-61, il est fifrelinesque. Il monte tel une tour Eiffel pour culminer en 65 à 30 milliards de dollars d'aujourd'hui.
Michel Vizeau, écoutons Hélène Stofan, la directrice scientifique de la NASA. Voici sa déclaration, c'était donc il y a quelques semaines, déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre.
Je pense que nous aurons de fortes indications de l'existence de la vie extraterrestre d'ici une décennie. Nous en aurons la preuve formelle d'ici 20 à 30 ans.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? 20 ou 30 ans, ça y est, on aura des réponses à cette question qu'on se pose tous. On attend ça avec tellement d'impatience.
Alors, l'impatience ne crée malheureusement pas les faits. Tout le monde... Alors, les moyens consacrés à la recherche d'une vie extraterrestre, d'une forme de vie extraterrestre ou de ses manifestations augmentent puisque c'est devenu un des enjeux majeurs de l'exploration spatiale. C'est ce qui accompagne scientifiquement cette volonté d'aller plus loin et dans des endroits qui donnent un peu envie aux gens d'y aller. Mais ça crée pas d'effet. Le problème est suivant, c'est que actuellement, quand on parle de chercher de la vie extraterrestre, essentiellement par les méthodes d'exploration, pour simplifier, c'est Mars et puis quelques chimies prébiotiques qui précèdent la vie qu'on pourrait trouver dans des océans, dans des poches d'eau, sur les satellites glacés des planètes géantes. C'est pas simple et c'est encore plusieurs décennies. Et ce qu'on va chercher, si on va aller chercher quelques traces chimiques, peut-être un individu singularisé. Quand je parle d'individu, c'est une bactérie. C'est-à-dire, c'est une chimie qui est entourée d'une membrane et tout se passe dans la membrane, dans ce qu'il y a dans la membrane. Bon. Ensuite, l'étape suivante, c'est ce qui se passe sur les planètes extrasolaires. Les planètes extrasolaires, on est en train d'en découvrir, on est à peut-être à 2000 maintenant.
Il y a une petite là qui est intéressante, une planète plus petite que Mars qui vient d'être découverte.
C'est
là.
Surtout une grande performance optique et astronomique.
Plus que son intérêt pour découvrir des...
Je ne suis pas capable de le dire, je n'ai pas les détails de la publication.
C'est plutôt les super-terres qui seraient intéressantes pour la vie.
Alors, les super-terres, les planètes océans, etc. Donc après,
mais là, c'est la première fois qu'on en découvre une aussi petite.
Alors, quand on parle découvrir, je veux aussi dire qu'on ne parle que des effets indirects de la planète sur son soleil, sur la lumière du soleil, etc.
On ne l'a pas photographié.
Donc, on n'est pas capable de les voir. Or, le seul moyen de détecter éventuellement quelque chose, ça serait d'être capable d'analyser l'atmosphère, donc de les voir au sens scientifique du terme, c'est-à-dire faire une spectrométrie ou une spectrographie. Et encore faudrait-il qu'il y ait une atmosphère et que la vie qui est éventuellement sur cette planète ait modifié cette atmosphère.
Ça fait beaucoup de conditions, tout ça.
Ça fait quand même beaucoup de conditions.
Oh là là, il y a du boulot pour les futures générations.
Alors, c'est des boulots pour les futures générations.
Ce serait pas une preuve, ce serait de dire c'est habitable.
C'est habitable. Et éventuellement, si on trouvait de l'oxygène, de l'ozone, parce que l'oxygène, on ne la détecte pas, donc on n'en détecte que l'ozone, donc avec trois molécules d'oxygène. Trois atomes d'oxygène, pardon. Eh bien, on serait capable de dire que éventuellement, peut-être, il y a une vie qui a modifié l'atmosphère de cette planète.
Il faut être d'une patience incroyable.
Alors, c'est de la patience, c'est du travail scientifique et la science, ça se fait pas sur des déclarations aussi.
Alors justement, pourquoi la NASA fait ce type d'annonce quand même? C'est un coup de pub, c'est pour avoir des financements.
Alors, je ne sais pas à quoi elle faisait allusion cette dame, mais il y a d'abord quand même que on est dans un schéma qui, si se confirme, on va avoir un retour à l'échantillon martien dans pas longtemps, dans la décennie. Donc, si on a des bons échantillons, on aura peut-être la preuve que la vie existait sur Mars. C'est important.
Au moins des indications.
Après, on peut en discuter. Après, Michel a dit la vie actuelle, probablement pas. Je ne sais pas. La vie actuelle en profondeur sur Mars, mais c'est difficile d'accès. Il faudra peut-être l'homme, d'ailleurs, pour le faire.
Avec
un Frédéric manipulé par des hommes, 100 mètres. Là où il y a de l'eau liquide, franchement, sur Mars, il est probable qu'il y ait de la vie. Et donc, simplement, c'est très très compliqué.
Pourquoi vous froncez les sourcils, Michel Vizeau?
Je veux dire, c'est pas parce que de l'eau, il y en a partout dans l'univers. Alors, c'est pour ça que de l'eau, il y en a partout dans l'univers. de l'eau liquide. Il y en a dans pas mal d'endroits de notre système solaire, souvent coincé entre deux couches de glace, en fait dans des conditions un peu particulières. Mais pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait à la fois une source d'énergie qui soit disponible et deuxièmement des nutriments. Il faut qu'il y ait quand même des cycles qui puissent se mettre en place et petit à petit une biosphère. Je pense que ce qu'il faut avoir comme concept quand même, et je pense que c'est important aussi pour nous sur Terre, c'est que il n'y a pas de vie singulière. Il n'y a pas une espèce qui existe quelque part. La vie, forcément, pour qu'elle puisse s'étendre, elle se diversifie, c'est l'évolution darwinienne, et cette diversification fait qu'on fait une biosphère où tout dépend des autres. Nous dépendons des abeilles sur Terre, comme les plantes, comme les bactéries dépendent aussi des plantes qu'il y a autour, etc., etc. C'est un ensemble, une écosphère, au vrai sens du terme, au sens scientifique du terme. Et donc, les écosphères, il faut quand même arriver à les détecter. Et alors, sur Mars, bien sûr, d'ailleurs, on prend des précautions de protection planétaire. Si on ramène des échantillons martiens, on va les prendre comme s'ils avaient à l'intérieur des micro-organismes qui pourraient éventuellement se développer ou exister sous forme vivante. Mais quant à affirmer qu'il y a eu quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose, on en est quand même assez loin.
Virginie Lepetit.
Oui, je voulais répondre à votre question tout à l'heure. Pourquoi la NASA fait-elle de telles annonces? C'est évidemment pour récolter des fonds. Et pour ça, elle a besoin de vendre ses projets aux politiques, mais aussi au grand public. Il faut passionner, il faut intéresser. Donc la NASA met très bien en scène ses projets, les survents, les habits de science-fiction.
Ils sont assez doués pour ça.
Ils sont très forts.
Ouais. Isabelle, non? Michel Vizot.
Il faut dire que bon, quand on parle d'exobiologie, par exemple, chez nous, c'est vraiment une recherche. Enfin, chez nous, en Europe et en France, c'est vraiment une recherche de la vie extraterrestre par des moyens scientifiques. Aux États-Unis, dans la charte de l'exobiologie, disons de la NASA, de la mission, c'est aussi le devenir de la vie dans l'univers. C'est rechercher de la vie extraterrestre ou des traces de vie extraterrestre et anticiper le devenir de la vie terrestre dans l'univers, sa propagation, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout, de moins, dans nos objectifs en tant qu'institution scientifique, en tant que CNES ou même en tant qu'agence spatiale européenne, puisqu'on travaille tous ensemble.
Donc les endroits les plus intéressants aujourd'hui, justement, pour un exobiologiste, c'est alors, dans notre système solaire alors, ou plutôt au contraire à l'extérieur?
Pour l'instant, on va commencer par le voisin qui est Mars, hein, quand même. Ça, on peut pas y couper. Et deuxièmement, ce qui nous intéresse, c'est ce qui peut se passer sur Europa, donc un satellite de Jupiter, sous la glace.
Europa, hein.
Europe.
Ah, non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit ici, Europe, s'il vous plaît.
Europa. Ainsi que, parce que c'est des modèles un peu sur Titan ou sur Encelade, donc des satellites de Saturne, dans lesquels il y a de l'eau, il y a des réactions, il y a de l'énergie, il y a de la chaleur. Donc c'est ça qui nous intéresse actuellement.
Oui. Isabelle Sorbès-Verger, pour terminer, est-ce que justement au niveau international, cette quête de vie ailleurs aussi favorise les financements?
Oui, alors ça, je ne sais pas si ça favorise les financements, ça les favorise un peu, pas ceux qui coûtent le plus d'argent dans l'activité spatiale, mais c'est sûr que c'est un défi scientifique absolument phénoménal, avec une retombée psychologique et philosophique qui est quand même très 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 forte. Hein. On a brûlé Giordano Bruno parce qu'il pensait qu'il y avait des mondes habités à une certaine époque. Hein. Oui. Donc c'est vraiment la grande question pour l'humanité.
Bon, un peu déçu quand même, parce que j'ai l'impression, Francis Rocard, qu'il faudra bien encore des générations de têtes au carré pour un jour annoncer ça sur l'antenne. Hein. On n'y est pas. Hein.
Vous parlez de la vie dans l'univers?
Ben oui.
Mais attendez, moi j'ai dit que si on fait retour l'échantillon dans 15 ans, on peut avoir la preuve que la vie est apparue sur Mars. Pour moi, c'est déjà énorme sur le plan psychologique et philosophique de savoir que la vie est apparue ailleurs.
Oui, qu'elle est apparue.
Après, la deuxième question,
mais qu'elle est là, qu'elle existe, qu'on l'a sous les yeux.
La deuxième question, c'est est-ce que c'est la même que la nôtre?
Oui.
Et ça, c'est l'ADN et tout.
Ah, la réponse est négative, obligatoirement.
Donc, on va voir.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre. Virginie Lepetit, donc à nous, l'espace, c'est en kiosque à partir d'aujourd'hui, avec Courrier International et toute la presse qui explore ce domaine fascinant.
En partenariat avec le CNES.
Merci beaucoup à tous. Fabrice Drouel, un être bien vivant qui sera avec nous dans un instant pour Affaires Sensibles.
Oui, la magie de la radio, c'est de passer de la planète Mars à la ville de Corbeil-Essonne.
Ah oui, c'est vrai.
Parce qu'on va vous raconter l'histoire de Serge Dassault, avec pour inviter Yann Philippin, journaliste à Mediapart, qui a coécrit avec Sarah Guibaudot de France Inter le livre Dassault System.
À tout à l'heure, Fabrice.